ce matin en Beauce.
Vous la connaissez, vous l'avez certainement vue à plusieurs reprises lors de points de presse donnés par la Sûreté du Québec, Mme Anne Mathieu. Elle est porte-parole de la Sûreté du Québec. Bonjour, Mme Mathieu, comment allez-vous?
Bon matin, ça va bien, merci vous-même.
Très bien. Mme Mathieu, sentez-vous très à l'aise? Je ne veux pas vous prendre par surprise. Je voulais juste savoir si vous aviez des informations supplémentaires là, sur les événements qui sont survenus à Saint-Georges-de-Beauce. Pas Saint-Georges, oui, sur la 18e rue, cette mort suspecte.
Ben non, je me sens très à l'aise. J'ai fait quand même un petit survol ce matin. C'est sûr qu'au niveau des enquêtes, je vais pouvoir faire la vérification plus approfondie, là, je vous dirais, dans le milieu de l'avant-midi. Mais depuis hier soir, on n'a pas évolué en communication, outre le fait de dire que c'est encore une mort suspecte parce qu'on essaie de déterminer avec précision les causes et circonstances du décès. C'est sûr qu'il va y avoir une autopsie sur la personne pour justement venir élaborer davantage sur la cause du décès. Mais on parle quand même d'un homme de 41 ans de Saint-Georges qui est décédé. Donc, ça devrait évoluer quand même assez rapidement. Ça dépend toujours aussi des informations qu'on recueille, hein, parce que vous le savez, on rencontre toujours les voisins ou toutes les personnes qui gravitent autour de la personne décédée. Ça nous permet d'avoir un bon historique de la personne. Ça nous permet de voir aussi ce que cette personne-là pouvait avoir des problèmes de santé ou autre. Donc, ça vient à ce moment-là déterminer un peu plus souvent les circonstances. Mais pour nous, elle est suspecte, cette mort-là, tant que, justement, on ne connaît pas la cause.
Dites-moi, juste pour renseigner un peu les gens, comment ça se passe lorsqu'on découvre un corps? Ben, généralement, ce sont des patrouilleurs, mais qui va déterminer que maintenant, on doit faire appel à une escouade plus spécialisée comme celle des crimes contre la personne?
Écoutez, en premier lieu, quand il y a une personne qui est retrouvée décédée, c'est sûr qu'il y a des gens, parfois, c'est des morts attendues, donc c'est un petit peu plus évident, là. Mais dans d'autres circonstances, il y a toujours un enquêteur. Les patrouilleurs vont arriver, il y a un enquêteur de poste aussi qui va regarder un peu l'ensemble de la situation à laquelle il fait face. Et par la suite, dépendamment des éléments qu'il va recueillir à première vue ou les premières informations recueillies par les personnes autour de la personne décédée, va faire en sorte que cet enquêteur-là va se référer souvent, parfois, à des escouades à Québec, entre autres, soit la division des enquêtes sur les crimes majeurs, ça peut être aussi les crimes contre la personne. Ça va vraiment dépendre des petites informations qui ressortent, qui va peut-être un peu, je vous dirais, chatouiller l'enquêteur. On prend cette expression-là, hein? Mm-hmm. Et là, il va dire, non, moi, celui-là, il y a des circonstances qui me fatiguent un peu. Alors, à ce moment-là, il va faire appel à son supérieur, qui vont regarder avec les autres escouades et vont décider par la suite quelle escouade va prendre le relais, tout simplement. Alors, dans ce cas-ci, il va y avoir des éléments qui étaient peut-être un peu plus différents ou chatouilleux, qui fait en sorte que ce sont les crimes contre la personne qui ont pris le dossier, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là a nécessairement été assassinée. Vous me suivez? Donc, ça va vraiment dépendre des informations que ceux-ci vont recueillir. L'autopsie aussi peut apporter de grandes réponses et par la suite, on saura si finalement cette personne-là a été victime d'un homicide ou non.
Bon, la raison pour laquelle je voulais vous parler, Mme Mathieu, c'est que, premièrement, enfin, on s'est dit, on est capable d'en attraper de ces arnaqueurs que j'appelle les arnaqueurs de l'amour. On a même attrapé, pense-t-on, la tête dirigeante de tout ça. Racontez-nous un peu comment cette enquête-là a commencé et a finalement abouti.
Donc, cette enquête-là, elle a commencé officiellement en 2019, mai 2019, lorsqu'une personne qui a porté plainte. Parce qu'au point de départ, c'est important, lorsqu'on parle de fraude, d'avoir aussi une plainte, hein, pour nous permettre d'avoir un point de départ pour voir qu'est-ce qu'on a comme information, est-ce qu'on est capable aussi de retracer les auteurs puis de les traduire devant les tribunaux. Donc, en mai 2019, on a commencé par une plainte. Et là, les enquêteurs ont réussi de fil en aiguille à remonter finalement tout ce stratagème-là et d'en retracer les auteurs. Dans ce cas-ci, on parle d'à peu près maintenant d'une cinquantaine de victimes là, dans ce réseau-là. Ça s'est terminé le mardi 15 septembre, ah ben oui, la journée que je revenais. Alors, on parle de 15 personnes au total, finalement, qui ont été ciblées, arrêtées. 9 personnes arrêtées, 3 qui ont été relâchées. Et il y en a quand même 6 autres à venir là qui seront rencontrées dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on continue l'enquête, parce qu'on continue quand même l'enquête de ce fait que d'autres personnes pourraient s'ajouter. Mais la Côte d'Ivoire travaille avec nous aussi, parce qu'il y a des gens arrêtés ici au Québec qui étaient en lien avec des gens de la Côte d'Ivoire.
De qui originait la plainte? D'une victime ou d'un proche d'une victime?
Selon les informations que je possède, c'est d'une victime. C'est sûr que c'est difficile pour les victimes, souvent, de porter plainte. Il y a différentes raisons. Il y a des gens qui ne porteront jamais plainte parce qu'ils se sentent honteux ou bien parce qu'eux aussi ne croient pas être victimes de fraude. Et ça, ça arrive.
Quel est le modus operandi? Il travaillait habituellement à partir de la Côte d'Ivoire. C'était compliqué de les enquêter puis d'arriver parce qu'il y avait tellement de serveurs qui pouvaient être impliqués dans tout ça. Comment ça se fait qu'ils ont décidé de venir s'installer au Québec?
Ah, ben là, écoutez, les raisons pour lesquelles ces personnes-là décident de venir s'installer au Québec, c'est peut-être parce que ça permet d'avoir un lien plus facile avec les personnes vulnérables, ben, parfois qu'ils ciblent ici dans la région. Donc, ça peut être une explication là, que je peux apporter. Il peut y en avoir d'autres aussi, là, soit dit en passant. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes-là qui font ce type de fraude-là, dans ce cas-ci, et même dans d'autres cas, ils vont utiliser soit des sites de rencontres ou des réseaux sociaux et vont se créer de faux profils. Donc, parfois, la dame ou le monsieur qui croit avoir affaire à une personne, exemple, un monsieur qui pense avoir affaire à une magnifique dame d'une trentaine d'années peut avoir affaire finalement à un homme de 40 ans à l'autre bout du fil sans le savoir, là. OK?
Oui. Comme la police, lorsqu'ils essaient de piéger des pédophiles, souvent se font passer pour de jeunes filles, alors que c'est une bonne grosse police barbue qui est à l'autre bout du clavier.
Croyez-moi que c'est sûr que si on s'affiche, c'est clair qu'on n'aura pas de réponse
non.
à l'autre bout du clavier.
C'est des crimes à long terme. C'est des crimes qui se produisent pas en un claquement de doigts. Il faut séduire sa victime.
Définitivement. Et les arnaqueurs sont très bons dans ce sens-là parce que ils prennent leur temps. Hein. Le but, c'est de créer des liens de confiance, tranquillement, pas vite. Alors, ils vont vraiment faire en sorte que la personne se sente confortable, d'accord? Mais par contre, ce qui arrive dans cette situation-là, c'est que souvent, là, ils les rencontrent jamais. Mmh. Hein? Les personnes ont toujours une défaite là, pour ne pas aller rencontrer la personne. Mais créer suffisamment de liens, de confiance pour soutirer de l'argent. Et quand la personne, le lien est bien créé, là, c'est là que le fraudeur va demander des sous. Il va avoir une urgence tout d'un coup là, qui va survenir, là, qui va faire en sorte que « aide-moi, j'aurais besoin de tant de sous pour telle raison, j'ai eu une collision, je voudrais aller te voir, mais là, j'ai pas assez de sous pour aller te voir, pour mon billet d'avion. » Donc, il y a toujours des prétextes pour soutirer de l'argent. Et malheureusement, il y en a des victimes de ça. Et on parle de 2,3 millions hein, d'argent, oui. Tout tiré. Là. C'est de l'argent, là. Il y a une personne dans ça qui a perdu jusqu'à 350 000 $. C'est des sous, là. C'est peut-être une retraite, là, tout ça, là.
Ben oui. Il y en a même, dans un cas, on parle d'au-delà de tout près de 300 000 $ là, qui auraient été fraudés. Dites-moi, on parle de la tête dirigeante qui a été arrêtée, dénommée Sogli Espoir Kouassi, et ses complices. Ces gens-là étaient-ils originaires de la Côte d'Ivoire, selon vous?
Faudrait-je vérifier? Là, actuellement, je lis originaire de Lévis. Par contre, est-ce qu'ils étaient ici depuis, depuis la naissance? Est-ce qu'ils sont arrivés ici par la suite? Ça, je possède pas ces détails-là aussi précis. Probablement, peut-être que ça va peut-être faire partie des procédures judiciaires. Là, je peux pas m'avancer aussi loin que ça.
OK. Dites-moi, est-ce que, là, on parle d'une collaboration avec la police étrangère? Oui, ivoirienne. Est-ce que c'est une première d'enquête mutuelle?
Je vous dirais là, que là, j'y vais avec ma mémoire personnelle parce que il y a déjà eu des rencontres. Il y a déjà eu un responsable de la police de la Côte d'Ivoire qui est venu au Québec il y a quelques années faire justement un discours ou expliquer un peu le travail qu'il faisait là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas la première fois qu'on a des contacts avec ces gens-là. Par contre, est-ce que c'est la première enquête où est-ce qu'on est capable vraiment de pouvoir élaborer sur... j'étais juste distraite pendant quelques secondes, là. Alors, est-ce que c'est la première fois que vraiment on a une enquête qui aboutit avec la Côte d'Ivoire? Ça, faudrait que je le vérifie. Mais c'est pas la première fois qu'on a des liens avec la police là-bas. C'est sûr que eux vont travailler le volet qui les occupent là-bas. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, il y a des lois. Là-bas, il y a d'autres lois qui ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes. Alors, eux poursuivent leur volet enquête à leur niveau avec les gens qui seraient impliqués dans ce réseau-là, là-bas.
Est-ce qu'il y a une procédure d'extradition qui existe entre le Canada et la Côte d'Ivoire, selon vous?
Il n'y a pas question d'extradition dans ce dossier-ci. Okay. Il y a vraiment la Côte d'Ivoire qui travaille avec les suspects identifiés là-bas qui vont, s'il y a lieu, traduire cette personne-là devant leur propre système de justice. Alors, on ne parle pas d'extradition dans ce dossier-ci pour ce dossier-là. Est-ce que dans d'autres cas, ça pourrait se faire? Mais là, je crois que c'est du cas par cas.
OK. Il y a des outils que la Sûreté du Québec met à la disposition autant des victimes que des proches de la victime. Pouvez-vous nous parler de ces outils-là?
Oui, mais premièrement, là, ce que je veux dire aux gens, c'est que soyez toujours proches des vôtres, soyez à l'écoute de ce qui se passe. Parce que des gens qui se retrouvent dans des situations comme ça, amoureuses, auxquelles elles croient et sont vraiment intimement convaincues qu'ils ont une relation amoureuse avec quelqu'un, il faut rester proche de ces gens-là. Il ne faut pas les laisser et dire, écoutez, bon, il faut vivre sa vie, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse, on peut pas rien y changer. Non. Restez proche, restez à l'écoute. Et là, oui, on a deux outils qu'on peut proposer aux gens qui sont à l'écoute. On a à la Sûreté du Québec, ma relation est-elle sécuritaire, et on a rompre avec la fraude. J'invite les gens à aller sur le site de la Sûreté du Québec, à aller voir ces outils-là. Je vous le dis, c'est pas compliqué. Ça arrive des fois qu'on va sur des sites Internet, puis qu'on va regarder l'information, puis qu'on lit ça, puis on sort de là, puis on fait « je vais recommencer, je suis pas sûr, pas trop compris ». Non, c'est clair. Allez voir ça. Ça va vous le dire. Hein. Ils vont vous questionner, dans le fond, c'est des questions que vous allez vous poser sur votre relation. OK? Comment vous l'avez rencontré? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que, déjà là, hein? Parce que vous, là, vous et moi, là, on se parle une fois de temps en temps au téléphone. OK? Fait, donc, on a déjà un contact établi, là. Moi, demain matin, là, je vous demande 17 000 piastres.
Ah, je vais vous le donner sans problème, madame Mathieu.
En général, les gens ne sont pas aussi rapides dans leurs réponses. Mais c'est vrai qu'on, avant de prêter des sous, là, on y pense deux fois, même quand on connaît quelqu'un.
Oui, okay? C'est vrai.
On y pense deux fois.
Même à des proches de notre famille.
Ben oui, on y pense. Des sous, hein, on travaille fort aussi pour les gagner, puis on veut être sûr aussi de les avoir. Ouais. Alors, imaginez que quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu, qui trouve des défaites tout le temps, allez donc y donner 17 000 piastres. Voilà.
C'est risqué.
Alors, dans les outils, là, allez voir ça. Là. La relation est-elle sécuritaire? C'est ce type de question-là que la personne va être amenée à se poser et rompre avec la fraude, dans lequel aussi vous avez des ressources, des lignes d'écoute qui vous sont mises en référence si vous désirez justement discuter avec quelqu'un pour voir un peu dans quel type peut-être de relation vous êtes.
Rompre avec la fraude étant davantage, de ce que j'en comprends, pour les proches des victimes potentielles. Vous savez, ça doit pas être facile. Je me souviens, vous savez, quand on essaye de conseiller nos enfants sur une relation amoureuse qu'on voit apparaître là, soudainement, on se dit « c'est pas quelqu'un pour toi, fais attention c'est très complexe. Là. On se fait retourner, mettre toutes tes affaires, puis je vais vivre ma vie. » C'est la même affaire, c'est la même chose pour les personnes âgées. Hein. Elles sont très réticentes à ce qu'on vienne entrer dans leur relation amoureuse et leur donner des conseils.
Tout à fait, puis surtout aussi parce que on a une expérience de vie aussi souvent là, lorsqu'on en vieillissant dans le temps, on a une expérience de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut penser parfois qu'on peut se tromper? Alors, il y a une honte, il y a une culpabilité des fois qui embarque. Alors, il faut pas laisser tomber ces personnes-là. Il faut rester proche, il faut rester à l'écoute. On peut aller chercher, comme je disais, des ressources d'aide pour voir de quelle façon je pourrais amener la personne à bien comprendre. Parce que j'ai déjà vu une situation, personnellement, où ce qu'un policier est allé dire à une personne que c'était une arnaque, là. Il vivait une arnaque amoureuse et cette personne-là ne voulait pas le croire. Alors, c'est important de ne pas laisser tomber ces personnes-là, qui, sinon elles vont se retrouver isolées et vont finir par perdre tout ce qu'elles possèdent aussi. Là.
Et pour votre 17 000 $, je vous fais ça par un virement bancaire?
Écoutez, je pense qu'on va aller le chercher cash.
Merci beaucoup, Mme Mathieu, de nous avoir accordé cet entretien ce matin. C'est très apprécié.
Pareillement. Alors, passez une belle journée, tout le monde.
Bonne journée.
Bye-bye.
Voilà.
Je vais en prendre moi aussi. Gaston, ça a l'air facile.
Anne Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.